VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi 24 juin 2022. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Une décision historique de la Cour suprême des États-Unis. L'institution vient de révoquer le droit à l'avortement. Le président Biden qualifie la décision d'erreur tragique et le résultat d'une idéologie extrémiste. Une cour militaire en RDC se déclare incompétente pour juger des activistes poursuivis pour s'être opposés à l'état de siège dans l'est du pays et annule leur condamnation. Ouverture à Kigali du sommet du Commonwealth, le prince Charles exprime sa tristesse pour le passé esclavagiste de la Grande-Bretagne. L'Ukraine ordonne le retrait de ses troupes de la ville stratégique de Severodonetsk, confirmant un nouveau revers dans le Donbass. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Dans une volte-face historique, la Cour suprême des États-Unis, dominée par des juges conservateurs, a enterré ce vendredi un arrêt qui garantissait jusque-là le droit des Américaines à avorter. Une décision qui suscite déjà des manifestations devant la Cour suprême. Le point avec Lionel Gaïma.
La Constitution ne fait aucune référence à l'avortement et aucun de ses articles ne protège implicitement ce droit, écrit le juge Samuel Alito au nom de la majorité des juges de la Cour. Roe v. Wade, cet arrêt historique qui avait légalisé l'avortement au niveau fédéral en 1973, était totalement infondé dès le début et doit être annulé, a-t-il expliqué. Il est temps de rendre la question de l'avortement aux représentants élus du peuple dans les parlements locaux, écrit-il encore. Cette décision ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, mais renvoie les États-Unis à la situation en vigueur avant l'arrêt Roe v. Wade de 1973, quand chaque État était libre de les autoriser ou non. La moitié des États-Unis, surtout dans le Sud et le centre plus conservateur et religieux, pourrait les bannir ou les restreindre de façon drastique. Cette formulation est proche d'un avant-projet d'arrêt qui avait fait l'objet d'une fuite inédite début mai, provoquant d'importantes manifestations dans tout le pays et une vague d'indignation à gauche. Des centaines de personnes pro-anti-avortement sont rassemblées devant le siège de la Cour suprême à Washington.
En réaction, le président Joe Biden appelle à défendre le droit à l'avortement et les libertés personnelles dans les urnes, qualifiant la décision de la Cour suprême d'erreur tragique et le résultat d'une idéologie extrémiste. Écoutons un extrait de son discours tout à l'heure à la Maison-Blanche.
Aujourd'hui, ce n'est pas une hyperbole de suggérer un moment très solennel. Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a expressément retiré au peuple américain les droits constitutionnels qu'elle avait déjà reconnus. Elle ne les a pas limités, elle les a simplement retirés. Cela n'a jamais été fait à un droit si important pour tant d'Américains. Mais ils l'ont fait. C'est un triste jour pour la Cour et pour le pays.
It's a sad day for the court and for the country.
C'était le président américain Joe Biden. Le Congrès américain a adopté ce vendredi sous les applaudissements une loi soutenue par des membres des deux partis qui vise à mettre en place une régulation des armes à feu la plus importante en près de 30 ans, mais qui reste bien en deçà de ce que voulait le président Biden dans un pays gangréné par les fusillades. Après le Sénat hier, la Chambre des représentants a approuvé un ensemble de mesures instaurant de nouvelles limitations sur les armes et consacrant des milliards de dollars à la santé mentale et à la sécurité dans les écoles. L'initiative parlementaire avait été lancée après le massacre d'Uvalde qui a fait 21 morts, dont 19 enfants dans une école primaire du Texas fin mai, et celui de Buffalo dans l'État de New York au cours duquel 10 personnes noires ont été tuées dans un supermarché mi-mai.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'armée du Burkina Faso va accorder un délai de 14 jours aux populations de deux zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite dans le nord et l'est du pays afin de lutter contre les violences djihadistes meurtrières. Lundi, le Conseil supérieur de défense nationale a décidé de la création de ces deux zones d'intérêt militaire. En RDC, une cour militaire s'est déclarée incompétente pour juger des militants des droits de l'homme poursuivis pour s'être opposés à l'état de siège dans l'est du pays. Le point avec Eric Manirakiza.
Le 1er avril dernier, le tribunal militaire de Beni dans le Nord Kivu avait condamné à un an de prison ferme 12 militants du mouvement Lucha, lutte pour le changement, arrêtés en novembre lors d'une manifestation contre la prorogation de l'état de siège dans la région. Ils avaient été condamnés pour désobéissance aux lois de la République et incitation au manquement à l'autorité publique en organisant une marche. Jeudi, les juges militaires siégeant en appel ont annulé cette décision, se sont déclarés incompétents et vont transférer le dossier à la justice civile, a indiqué Stewart Mohindo, militant de la Lucha. Mais les militants restent en détention, a-t-il ajouté, déplorant qu'ils soient emprisonnés pour avoir exercé leurs droits reconnus par la Constitution. L'état de siège est de plus en plus critiqué. Il a été décrété en mai 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le président Tshisekedi pour tenter de mettre fin aux violences des groupes armés. Cette mesure exceptionnelle a remplacé l'administration civile par des militaires et des policiers, mais n'est pas parvenue jusqu'à présent à ramener la paix.
Le prince Charles soutient que les États membres sont libres d'abandonner le giron de la monarchie et exprimer sa tristesse pour le passé esclavagiste de la Grande-Bretagne. C'était en ouverture de la réunion des dirigeants du Commonwealth à Kigali, au Rwanda. Deux nouveaux membres africains seront admis. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le Togo et le Gabon doivent intégrer le Commonwealth dans le présent sommet à Kigali, qui s'achève demain samedi. De nouvelles nations cherchent à se joindre, ce qui montre tout ce que vous devez savoir sur la santé et la validité de notre Commonwealth, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson. Cela portera à 56 le nombre de pays membres de l'organisation que le Rwanda a intégré en 2009. Dans 14 des États membres, la reine Elisabeth II est la chef de l'État et certains pays n'ont pas caché leur volonté de prendre leur distance avec la monarchie. Le régime constitutionnel de chaque membre en tant que république ou monarchie relève uniquement de la décision de chaque État membre, a déclaré le prince Charles, qui représente sa mère, la reine Elisabeth II. La secrétaire générale du Commonwealth, la britannico-dominicaine Patricia Scotland, a été réélue pour un nouveau mandat de 2 ans. En marge du sommet, la République démocratique du Congo a demandé au Royaume-Uni de condamner le Rwanda, qu'elle accuse d'agression dans l'Est congolais, et de soutenir le groupe armé du M23, ce que dément Kigali.
L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, 79 ans, a été placé en soins intensifs dans une clinique de Barcelone en Espagne en raison d'une détérioration de son état de santé. C'est ce qu'a rapporté ce vendredi la télévision publique portugaise. Sa fille aînée, la femme d'affaires Isabel dos Santos, lui a rendu visite ce matin selon la même source.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine a annoncé aujourd'hui le retrait de ses troupes de la ville de Severodonetsk, théâtre de semaines de bombardements et de combats, un revers important depuis le début de la guerre le 24 février. Le point avec Jean-Roger Bion.
Les troupes ont reçu l'ordre de se déplacer vers de nouvelles positions, a déclaré le gouverneur de la province sans donner plus de détails. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a minimisé l'importance de la perte éventuelle d'autres territoires dans le Donbass. Poutine voulait occuper le Donbass au 9 mai. Nous sommes le 24 juin et nous nous battons toujours. Battre en retraite après quelques batailles ne signifie pas du tout avoir perdu la guerre, a-t-il déclaré dans une interview accordée au journal italien Corriere della Sera. Le ministre s'est néanmoins montré pessimiste quant aux perspectives de pourparlers de paix à court terme. Kiev est toujours ouvert à l'idée d'une rencontre entre les deux présidents, au cours de laquelle chaque point serait soumis au dialogue, a-t-il déclaré. Le ministre a également réitéré les appels de Kiev à recevoir davantage d'armes de la part des Occidentaux, notamment des lance-roquettes et des canons, ainsi que davantage de munitions.
L'armée israélienne a réaffirmé ce vendredi qu'il était impossible de déterminer comment Shirin Abu Akleh avait été tuée après que l'ONU a assuré que la journaliste palestino-américaine avait été mortellement touchée par des tirs des forces israéliennes. C'était le 11 mai en Cisjordanie occupée. Et puis les autorités iraniennes ont qualifié ce vendredi de ridicule les propos du chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, qui a accusé Téhéran de planifier des attaques visant des ressortissants israéliens en Turquie. Ces allégations sont sans fondement, sont ridicules et font partie d'un complot prémédité visant à détruire les relations entre les deux pays musulmans, a affirmé ce vendredi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Hier à Ankara, le ministre israélien des Affaires étrangères a remercié les autorités turques pour avoir, selon lui, déjoué des tentatives d'attentats terroristes visant des touristes israéliens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco présentée par Nathalie Barche.
Au Togo, la Faculté des sciences de l'homme et de la société de l'Université de Lomé a inauguré hier un laboratoire de télédétection appliquée et géo-informatique sponsorisé par le PNUD à hauteur de 170 millions de francs CFA. Il permettra de recueillir des données spatiales pour le développement socio-économique, a précisé la responsable du département de la géographie, Kosiwa Zinsou Klassou. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghezouani a rencontré hier le président de la Banque européenne d'investissement, Werner Hoyer, indique l'institution publique internationale. Lors de la discussion, il a été convenu d'intensifier les investissements dans l'éolien, le solaire et l'hydrogène vert. Une coopération plus étroite permettra à la Mauritanie de bénéficier de l'expérience technique et de la solidité financière unique de la BEI, a déclaré et Monsieur Ghezouani.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Le Rwanda accueillera le 73e congrès de la FIFA.
Le 73e congrès de la FIFA se tiendra à Kigali au Rwanda le 16 mars 2023. L'annonce a été faite par l'instance du football mondial qui précise qu'à l'occasion aura lieu l'élection présidentielle à la tête de l'instance mondiale du football. En octobre 2018, le Rwanda a accueilli la réunion du Conseil de la FIFA. D'autres pays africains comme le Maroc en 2005 et Maurice en 2013 ont déjà accueilli le congrès de la FIFA.
Mondial 2022, la FIFA porte à 26 le nombre maximal de joueurs par sélection.
Oui, exit la liste des 23. Les pays qualifiés pour le Mondial à Qatar 2022 sont autorisés à avoir une liste de 26 joueurs, annonce la FIFA, pérennisant ainsi cette mesure de flexibilité introduite pendant la pandémie de COVID-19. La FIFA explique avoir adopté cette mesure dans l'optique de faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du Monde aura lieu, à savoir en novembre-décembre et non pendant l'été. 5 pays africains sont qualifiés pour le Mondial 2022. Il s'agit du Sénégal, du Ghana, du Cameroun, de la Tunisie et du Maroc.
Nasser Al-Khelaifi, acquitté dans l'histoire des droits TV de la FIFA.
Oui, le président de Bein Media et du Paris Saint-Germain a été blanchi en appel par le tribunal pénal fédéral de Bellinzone en Suisse, comme il l'avait déjà été en première instance. Dans une affaire de droit télé, son co-accusé, l'ex numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk, a aussi été acquitté dans ce même dossier, mais ce dernier a été condamné à 11 mois de prison avec sursis pour corruption passive et faux dans les titres dans une affaire distincte. Le parquet les accusait d'avoir établi un arrangement corruptif dans le dos de la FIFA. L'accusation estime que Valk avait monnayé son soutien à la chaîne Bein en échange d'une luxueuse villa achetée pour lui 5 millions d'euros fin 2013 par une société détenue par M. Al-Khelaifi.
La société de production de Mbappé va travailler avec la NBA.
La NBA et Zebra Valley ont annoncé un partenariat pluriannuel autour de la création de contenu afin de mobiliser les fans du monde entier, indique la Ligue nord-américaine de basketball. Kylian Mbappé vient de lancer sa société de production Zebra Valley dans le but de produire des productions scénarisées et non scénarisées, ainsi que des formats animés autour du sport, de la musique, de la culture ou encore des jeux vidéo. L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France a assisté hier à New York à la draft NBA, la bourse annuelle où les franchises NBA recrutent les meilleurs joueurs universitaires et espoirs mondiaux. Entre autres, le Orlando Magic a créé la surprise en retenant en première position Paolo Banchero, un intérieur récemment naturalisé italien. New York a sélectionné en 11e position l'ailier français Ousmane Dieng, immédiatement transféré à Oklahoma City.
Merci à Kouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Les réactions continuent après la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé aujourd'hui un arrêt garantissant le droit à l'avortement au niveau donc fédéral, renvoyant la balle aux États, une décision qui enterre l'emblématique Roe v. Wade de 1973 et qui suscite déjà beaucoup de réactions des partisans et des opposants de l'avortement. Suivons l'analyse de Jean-François Seznec de l'Atlantic Council.
Ben, pas vraiment une surprise parce que la décision avait été passée à la presse il y a déjà près d'un mois. Hein. Donc les gens ont eu le temps de se préparer un petit peu pour cette surprise. Mais c'est quand même très grave parce que c'est c'est important parce que c'est un énorme changement de la société américaine.
Alors, c'est vrai qu'on a une majorité de conservateurs à la Cour suprême, 6 contre 3 progressistes. Certains pensaient que cet arrêt, en tout cas le droit à l'avortement, était déjà un acquis pour la société américaine. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, tout ça?
Ben ça signifie tout simplement que entre les conservateurs et les libéraux, il n'y a pas vraiment de lien commun. Je trouve assez amusant que dans un sens, enfin amusant, je trouve triste même que d'un côté il y a les gens qui sont contre l'avortement et pour la peine de mort, et que c'est l'opposé, ils sont pour l'avortement et contre la peine de mort. C'est-à-dire que d'un côté ou de l'autre, que ce soit les conservateurs même à la Cour suprême et les libéraux même à la Cour suprême, n'ont pas vraiment un respect automatique de la vie en général. Donc ou bien on est pour l'avortement ou contre la peine de mort ou l'inverse. Et c'est vraiment, je trouve ça difficile à comprendre et je pense que en fait ça va ouvrir la porte à tout un tas d'autres décisions qui vont être très importantes pour le futur de la société.
Et certains pensent déjà, par exemple, au mariage homosexuel.
Oui, ça, il est certain, à mon avis, que ça, le temps est compté pour ça. Effectivement, que le mariage homosexuel, vu que pour le moment, la majorité conservatrice a l'air d'avoir vraiment le contrôle de la Cour suprême, je pense qu'effectivement, le mariage homosexuel va sans doute, à un moment ou à un autre, assez bientôt, je pense, venir devant la Cour et être annulé.
Alors, pour revenir un peu sur cette question de l'avortement, vous pensez maintenant que la bataille sera au niveau des États. Comment ça pourrait se passer?
Oui, ça pourrait se terminer par avoir chaque État ayant des lois très différentes. Mais d'un autre côté, on voit qu'en ce moment, d'un côté, la Cour suprême veut donner de l'importance aux États, mais de l'autre côté, il donne aussi l'importance vitale au droit fédéral.
C'était l'économiste et analyste politique Jean-François Seznec. Et on reste dans l'actualité judiciaire américaine avec une décision de la Cour suprême rendue hier jeudi. Elle soutient pour la première fois que les Américains ont le droit de porter des armes hors de leur domicile. Ces 6 juges conservateurs ont invalidé une loi de l'État de New York datant de 1913 qui limitait les permis de port d'armes. Cette décision intervient alors que les États-Unis sont encore sous le choc d'une série de fusillades meurtrière, dont celle du 24 mai qui a fait 21 morts dans une école primaire du Texas. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à New York Mohamed Mbouj, professeur d'histoire à Manhattan College.
New York est avec 4 ou 5 autres États, peut-être d'une dizaine maximum, ont cette impossibilité de se promener, disons, dans la rue avec une arme cachée ou visible. C'est très simple. Avec permis, bien entendu, parce qu'on ne peut pas se promener avec une arme sans permis. Donc, ce que la Cour a dit, c'est que, en fait, le fait d'imposer un permis spécial pour que quelqu'un transporte une arme en public n'est pas constitutionnel. Donc, de ce point de vue-là, New York va être aligné sur l'écrasante majorité des États américains qui, effectivement, permettent à chacun, lorsqu'on a un permis de port d'armes, de transporter son arme sur soi, dans son véhicule, etc. Certains États permettent que cette arme soit cachée, d'autres permettent même que cette arme soit visible.
Quel serait l'impact sur l'État de New York ou la ville de New York, où l'on sait qu'il y a beaucoup d'armes à feu qui circulent, et aussi où le taux de criminalité est élevé?
Alors, l'État de New York et en particulier son voisin, le New Jersey, parce que souvent les gens l'oublient, New Jersey, c'est l'État le plus densément peuplé aux États-Unis et New Jersey a la même loi. Donc, ces deux États vont se retrouver maintenant avec de très grandes villes, avec une énorme population dans ces villes, et où les gens vont avoir le droit de se promener avec des armes cachées. Ce qui fait que s'il y a une dispute dans le métro ou dans le bus ou dans le cinéma, quelqu'un peut sortir une arme pour dire « je vais me défendre contre le gars qui veut m'agresser ».
Quel impact au-delà des États comme New York ou le New Jersey?
L'impact est constitutionnel en ce qu'il dit que le second amendement n'est pas un amendement de circonstance, mais est un amendement absolu. Donc, ça veut dire qu'il limite la possibilité des États de réguler la possession, le port et l'utilisation des armes.
Dans la foulée, le Sénat américain a adopté un projet de loi avec cette fois-ci des Républicains pour jusqu'à 15 qui vise à apporter des restrictions au port d'armes. Comment comprendre cela lorsque la Cour suprême dit que le port d'armes est un droit absolu?
L'effet se conjugue parce que la Cour suprême a clairement dit que quand même dans des circonstances exceptionnelles, les États sont habilités à prendre des mesures. Et ce que le projet de loi qui va finalement être adopté aujourd'hui, je crois, dit clairement, c'est d'abord qu'il ne suffit pas d'avoir 18 ans pour être capable d'acheter n'importe quelle arme. Entre 18 ans et 21 ans, les enquêtes de moralité vont être très rigoureuses afin de faire en sorte que les plus jeunes ne puissent pas avoir accès à des armes de destruction massive, disons. Et donc, d'une manière générale, encourager les États à créer une sorte de vigie qui permet de repérer des gens à problèmes mentaux en particulier, essayer de faire en sorte que ces gens-là ne puissent pas avoir accès aux armes, qu'il y ait des recherches sur leur moralité, sur leur stabilité, etc., pour leur refuser le permis de port d'armes.
C'était le professeur Mohamed Mboyt de Manhattanville College. Le Cameroun a déployé des centaines de soldats le long de sa frontière avec le Nigeria après que les attaques des militants de Boko Haram ont contraint plus de 40 000 villageois à fuir la région au cours des deux derniers mois. Le ministre camerounais de la Défense s'est rendu à la frontière pour évaluer la situation sécuritaire et assurer les villageois qu'ils peuvent rentrer chez eux en toute sécurité. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé au Cameroun et c'est un récit de Lionel Gaïma.
Selon l'armée camerounaise, les incursions de Boko Haram dans le Mayo Tsanaga, une circonscription administrative située à la frontière nord du Nigeria, ont considérablement augmenté depuis avril. Chaque jour, des combattants de Boko Haram traversent la frontière, attaquent des villages camerounais et volent du bétail et de la nourriture, précise l'armée. Le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty, à ce mot a déclaré jeudi que le président Paul Biya lui avait demandé de conduire une délégation de hauts responsables militaires à la frontière. Assomo et sa délégation ont visité le département du Mayo Tsanaga où se trouve Mokolo. Il affirme que plusieurs centaines de soldats y ont été déployés pour protéger les civils et leurs biens. Le ministre Assomo précise que les groupes d'autoprotection doivent coopérer avec l'armée.
Les comités de vigilance sont sous l'encadrement des autorités administratives dont nous saluons le travail. Il va falloir resserrer leur encadrement, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, pour que les fichiers soient bien tenus et qu'on sache qui est qui dans tel ou tel comité de vigilance. Et que nous n'ayons pas dans certains comités de vigilance des agents doubles. Ils sont avec nous, mais qui renseignent les Boko Haram. L'armée va poursuivre son travail, ses opérations, avec davantage d'énergie, en fonction des moyens mis à sa disposition par le gouvernement, avec une priorité sur ces zones montagneuses à la frontière qui sont poreuse et dangereuse.
Ousmane Aliou est originaire de Douvan, un village situé à la frontière avec le Nigeria. Il dit qu'à l'exception de quelques personnes âgées, presque tout le monde a quitté Douvan. Il s'est exprimé via une application de messagerie depuis Mokolo.
Douvan comptait 10 000 habitants et quand j'y suis allé la semaine dernière, je n'ai vu que 15 personnes à Douvan. Je demande donc à Monsieur le ministre de faire quelque chose pour nous, s'il vous plaît. Venez nous aider. Notre peuple dort sur la montagne.
En mai, les villageois vivant le long de la frontière nord du Cameroun avec le Tchad et le Nigeria ont organisé des manifestations quotidiennes devant les bureaux gouvernementaux pour demander que l'armée les protège. Voho Deguim est le maire de Mokolo. Il affirme que si l'armée avait répondu plus rapidement à l'appel de villageois, les civils n'auraient pas eu à fuir leur maison.
Il y a plus de 30 000 déplacés vers le Nigeria. Il y a des réfugiés ici, il y a des retournés partout. Depuis quelques mois maintenant, la situation s'est empirée au point où des villages entiers ont été détruits.
Monsieur Deguim a souligné que certains des villageois enfuis trouvent refuge dans les communautés d'accueil dans les localités frontalières plus sûres. Les médias locaux rapportent que le Cameroun a retiré certaines de ses troupes de la frontière nord avec le Nigeria et le Tchad et les a redéployées pour combattre les rebelles séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. L'armée camerounaise rejette ces allégations et affirme que les troupes sont toujours prêtes à défendre les civils en cas de besoin.
Le Gabon et le Togo frappent à la porte du Commonwealth. La demande d'adhésion de ces deux pays francophones devrait être approuvée par les dirigeants de cette communauté de 54 nations composées principalement d'anciennes colonies britanniques réunies en sommet au Rwanda ce vendredi et demain samedi. Quel intérêt pour ces pays à entrer dans le Commonwealth? Voici l'analyse du Dr Jonathan Dutoum Ngom, enseignant-chercheur de géopolitique et géostratégie à l'Université Omar Bongo de Libreville et ancien membre du gouvernement gabonais.
Aujourd'hui, certains pays francophones d'Afrique, notamment le Rwanda et puis aujourd'hui le Togo et le Gabon, sont motivés par le fait de vouloir peut-être doper leurs prestations sur le plan économique. Et de ce fait, il leur faut diversifier les partenaires économiques. Je pense que ça peut être une des premières raisons qui motive ces pays à frapper aux portes du Commonwealth. Mais ça peut être aussi une espèce de chantage géopolitique où ces pays voudraient attirer l'attention de la France quant à son orientation politique aujourd'hui au niveau des pays d'Afrique francophone.
Que pourraient gagner concrètement les pays francophones qu'ils n'ont pas déjà dans le giron francophone, leur espace d'origine?
Je pense que l'espace anglophone paraît beaucoup plus vaste aujourd'hui pour des pays francophones d'Afrique que l'espace de la francophonie. Donc, de ce point de vue, il y a non seulement des motivations, des facteurs de projection de puissance pour ces pays anglophones au niveau des pays d'Afrique francophone. Et donc, de ce point de vue, il y a des gains diplomatiques, il y a des gains géostratégiques, il y a des gains économiques pour ces pays. Et puis, il y a aussi une manière d'attirer l'attention de la France par rapport à la revisitation de sa politique aujourd'hui. Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a une autre puissance ou bien un autre groupe qui frappe à la porte d'Afrique, c'est le groupe sino-russe. La Chine, tant bien que mal, est sérieusement bien implantée dans ces pays aujourd'hui avec sa politique d'un partenariat gagnant-gagnant. Il ne reste pas moins que dans le domaine militaire, la Russie aujourd'hui s'est installée dans certains pays, avec le groupe privé, le groupe militaire privé Wagner en Centrafrique, au Mali aujourd'hui. Il y a d'autres pays qui sont en voie de signer ces accords. On parle de Madagascar, du Cameroun. Donc, bref, c'est à la France aujourd'hui, au monde occidental, de pouvoir réorienter la politique au niveau, par exemple, de l'espace francophone d'Afrique, pour que finalement ces pays ne cherchent pas tous à se sauver pour frapper aux portes du monde anglophone, notamment le Commonwealth.
Alors comment le facteur linguistique peut passer de handicap à avantage dans ce commerce?
La plupart des échanges commerciaux se déroulent beaucoup plus facilement en langue anglaise. Et donc pour les pays d'Afrique francophone, s'ouvrir au monde anglophone est un gain économique important en ce que la langue anglaise est la langue des affaires à travers le monde. Ce qui n'est pas le cas de la langue française qui, tout aussi étant une langue importante, trouve quand même certaines limites quant à la réalisation de ces échanges économiques.
C'était Dr Jonathan Ntoum-Ngom, joint à Libreville. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Lionel Gaïma, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.